Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans les chemins du vendredi qui inaugure cette année une nouvelle formule. Profession philosophe. Car oui, la philosophie est aussi un métier. Aujourd'hui, l'émission a lieu en compagnie de la philosophe allemande Caroline Emke. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bonjour à Bernard Mongiante qui est à vos côtés pour assurer la traduction.
Bonjour.
Caroline Emke, le on est impersonnel délibérément, vous présente comme philosophe, journaliste, grand reporter de guerre. Comment vous présentez-vous ?
Auteur.
Non pas philosophe.
Nein, das klingt ein bisschen hochtrabend. Ich habe Philosophie studiert, aber ich bin Autorin.
Ça me paraît un peu surdimensionné, disons. J'ai étudié la philosophie, mais je me considère comme auteur.
La philosophie est-elle un métier pour vous ?
Ja, also natürlich.
Oui, bien sûr.
Ich würde nicht als Titel Philosophin sagen.
Je ne revendique pas le titre de philosophe.
Aber natürlich ist es das, was mich durchdrungen hat.
C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a marqué.
Seit ich Schülerin war, über das Studium hindurch.
Depuis ma scolarité, mes études.
Es ist eine Formation des Denkens.
C'est une formation à la pensée.
Die nicht aufhört.
Qui ne cesse jamais.
Comment êtes-vous venu à la philosophie?
Ich hatte in der Schule schon Philosophie.
J'avais déjà des cours de philo à l'école.
Man konnte im Gymnasium wählen zwischen Religionsunterricht und Philosophie.
Au lycée, on pouvait choisir entre le cours de religion et philosophie.
Und ich hatte einen ganz, ganz wunderbaren Philosophielehrer.
Et j'avais un prof de philo formidable.
Ungeheuer engagiert war.
Qui était très, très engagé.
Streng.
Très strict.
Aber so passioniert,
mais tellement passionné
ansteckend war,
que c'était contagieux.
Und das ist geblieben.
Et c'est resté.
Vous vous souvenez de ce qui vous a plu à ce moment-là?
Ich glaube, die Gleichzeitigkeit von Konkretion und Abstraktion.
C'était la simultanéité entre le concret et l'abstrait.
Die Gleichzeitigkeit von dem Beschreiben von Situationen, dem Beschreiben von Erfahrungen.
La simultanéité entre la description des situations, la description des expériences.
Ja, also konkreten Entscheidungssituationen,
des situations
in denen
de décision concrète,
jeder Mensch befinden kann,
dans lesquelles chacun de nous peut se trouver.
Und dem Suchen nach Strukturen, nach Logik, nach Mechaniken.
Et la quête de structure, de logique, de mécanisme.
Und ich glaube, dass mich genau diese Gleichzeitigkeit damals schon fasziniert hat.
C'est vraiment cette simultanéité qui m'a fasciné à l'époque.
Bis heute geblieben ist.
Qui est restée jusqu'à aujourd'hui.
Und das heißt nicht, dass mir nicht die Erzählungen und Mythen.
Ça ne veut pas dire que
des religieuses
les mythes et des religions me soient étrangères, mais c'est vraiment ça qui m'a fasciné avec la philosophie.
Vous dites que c'est son aspect concret qui vous a fasciné. On fait souvent le reproche inverse à la philosophie d'être trop coupée du monde et trop abstrait.
Ja, nein, also das sagt immer nur jemand, der das nie vermittelt bekommen hat.
C'est les gens qui n'ont jamais eu accès à la philosophie qui disent ça, qui ne l'a pas transmise.
Sondern es waren immer Übersetzungsleistungen. Und zwar
ce sont toujours comme des traductions.
Aus der Wirklichkeit, aus konkreten Erfahrungen.
C'est partir de la réalité concrète, de la réalité immédiate, y compris d'images concrètes, d'analogies, pour le traduire en normes, en abstraction, en règles, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut faire le chemin inverse.
Par exemple,
des philosophes du droit comme Klaus Günther, par exemple,
c'est
ce qu'ils appelleraient des discours d'usage.
C'est-à-dire,
de traduire à partir de la norme vers l'expérience.
Permanente Übersetzungsleistung.
Donc, c'est une traduction permanente, en quelque sorte.
On ne peut
pas le voir à la radio, mais dès que j'en parle, je rayonne.
Donc la philosophie serait une affaire de traduction.
Oui, oui, tout à fait.
Permanente, wechselseitige Übersetzung.
Traduction dans les deux sens, oui. Sans cesse.
Est-ce que vous vous souvenez du premier texte ou du premier auteur philosophe qui vous a donné envie d'aller plus loin?
Ich glaube, der erste Satz,
je crois que la première phrase avec laquelle j'ai commencé,
hat die Menschen immer schon zur Philosophie gebracht, oder dass bei der Philosophie ums Staunen.
Oui, c'est l'étonnement qui a toujours amené les hommes vers la philosophie.
Aber ich weiß sehr genau, dass das, ich glaube, das erste wirkliche der erste Text, der erste Philosoph und das erste Beispiel war das Höhlengleichnis von Platon.
Mais je crois que le premier texte, c'était le mythe de la caverne de Platon, bien sûr.
Vous souvenez pourquoi?
Warum wir das gemacht haben? Ich glaube einerseits, weil es also einfach eine sehr frühe, also historisch Ideengeschichte.
D'une part, historiquement, c'est très tôt dans l'histoire de la philosophie, d'une part.
Früh, wir haben allerdings auch die Vorsokratiker und Heraklit auch schon in der Schule gelesen, aber ich glaube begonnen.
Déjà à l'école, on lisait les Heraklit et les présocratiques, mais mon premier souvenir vraiment après cela, c'est le mythe de la caverne. Oui.
Pour faire votre portrait philosophique, Caroline Hemke, on va apprendre à vous découvrir aussi en vous écoutant tout au long de cet art. Vous venez de nous raconter votre rencontre avec la philosophie. On va entendre des sons et certaines personnes vont vous poser des questions, des personnes qui font aussi partie de l'histoire de la philosophie. En voici un premier son, une voix de quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Je vous laisse la reconnaître, l'écouter, vous nous direz ensuite qui c'est.
You can take a radical position and say open borders. Well, you know, there are days when I think that that's the only defensible solution.
On peut adopter une attitude radicale et dire on ouvre les frontières. Vous savez, il y a des jours où je pense que c'est la seule solution défendable. Mais mon argument contre l'ouverture des frontières est que je ne crois pas qu'on puisse avoir des politiques vraiment démocratiques sans aucune sorte de frontières. Pour moi, il y a une différence entre limites et frontières. Les frontières sont des zones militarisées et dangereuses pour les gens. Franchir une frontière, ce n'est pas comme franchir une limite. Nous franchissons des limites dans notre vie, tout le temps. Vous savez, quand on passe d'un environnement de travail à un autre, d'un quartier à un autre, d'un âge de la vie à un autre. Mais les limites d'un État sont ses frontières. Elles sont militarisées, elles sont protégées par la police, par la violence. Le passage d'une frontière est toujours vu comme criminel, sauf si vous avez les bons papiers. Alors il faudrait peut-être penser de cette façon. Mais est-ce que c'est possible de décriminaliser tout ça ?
Caroline Hemke, quelle est la voix que nous venons d'entendre ?
Sheila Ben Habib.
Sehr, sehr schön, dass Sie das hier einspielen, muss ich sagen.
Oui, c'est très bien que vous ayez pu passer ça ici.
Ich komme wieder in diese Sendung. Meine Doktormutter.
Oui, c'est elle qui a supervisé mon doctorat. J'ai étudié avec elle.
Ich habe nicht nur bei ihr studiert, ich habe auch von ihr gelernt.
Oui, je n'ai pas seulement étudié avec elle, j'ai beaucoup appris d'elle.
Das ist noch etwas anderes.
Ce qui est autre chose.
Und natürlich hat sie eine ganze Reihe von Themen und auch Traditionslinien.
Elle a abordé un grand nombre de thèmes et de traditions dans ses propres travaux, qui me sont très proches aussi. L'école de Francfort, la théorie critique,
der Bezug zu Hannah Arendt,
le rapport à Hannah Arendt,
Sheila Ben Habib eben auch sehr, sehr stark ist,
qui est très fort chez Sheila Ben Habib,
die Diskurstheorie,
la théorie du discours.
Aber ich glaube auch, dass vielstimmige in der eigenen Biographie.
Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses justes et cohérentes dans sa biographie.
Zu verschiedenen Kontexten und Ländern und Sprachen ist etwas, was Sheila Ben Habib eben.
Le rapport avec des cultures et des pays différents, c'est quelque chose qui est très important pour elle et ce qu'elle a beaucoup travaillé, qui est très important pour moi aussi.
Dans l'extrait qu'on a entendu, elle fait la distinction cruciale entre des frontières et des limites. Ce thème-là, Caroline Hemke, se trouve dans tout votre travail, dont deux ouvrages sont disponibles en français, hein, Contre la haine, plaidoyer pour l'impur, dont vous étiez venu parler à ce micro l'an dernier, et celui qui vient d'être traduit en français, Notre désir, qui est une sorte d'histoire personnelle de votre trajectoire philosophique, mais pas que, mais aussi du trajectoire de votre désir, et dans laquelle le motif de la frontière, de la division, de la limite est sans cesse exploré.
Ja, das ist richtig. Es gibt in der Tat sind die Fragen der Schwellen, der Grenzen.
De fait, la question des limites et des frontières.
Instrumente des Einschließens oder Ausschließens.
Les instruments de l'inclusion ou de l'exclusion.
Des dazugehörig erklärens und nicht dazugehörig erklärens.
De déclarer quelqu'un comme faisant partie du collectif ou non.
Normen, die die einen als akzeptabel und die anderen.
Ou des normes qui sont acceptables par
d'autres. Das zieht sich
on retrouve ça dans tous les textes. Et dans le nouveau livre, Notre désir, il s'agit moins de questions de nation et de culture, mais beaucoup plus de la question du désir.
Le désir d'ailleurs étant le désir corporel sur lequel vous revenez beaucoup, que le désir même de la pensée en fait, puisqu'on parle du métier même de philosophe, c'est le désir est à la base de la philosophie.
Ja, ich glaube, Begehren, wie übrigens auch der Glaube und die Liebe.
Je crois que le désir, de même d'ailleurs que la croyance et l'amour,
ist unverfügbar.
Ne sont pas des choses dont on peut disposer à sa guise. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On ne peut pas décider de ne plus désirer quelqu'un. Et pas plus qu'on ne peut décider de désirer quelqu'un. Personne ne peut décider d'être croyant ou de ne plus être croyant.
Insofern sind das natürlich besonders faszinierende Fragen einerseits.
Donc ce sont des questions tout à fait fascinantes parce que d'un côté, comment est-ce qu'on est livré pieds et poings liés à ça?
Aber man ist auch besonders verwundbar.
Mais on est aussi très vulnérable.
Besonders schutzlos.
Et sans protection.
Wenn es ein Begehren gibt, also
lorsqu'il y a un désir de croire, désir d'aimer,
dass man sich nicht aussucht.
Parce qu'on est vulnérable, parce qu'on ne peut pas choisir, et en même temps, on y éprouve du plaisir.
Le désir est comme un défi lancé à la philosophie, comme la haine, qui était votre précédent objet.
Ja, wobei, bei der Philosophie gibt es selten Momente, wo ich
oui, sauf qu'en philosophie, il y a peu de moments où on ne désire pas.
Le désir, tout le temps.
On désire tout le temps en philosophie.
Vous désirez tout le temps en philosophie, en tout cas, si on en croit à votre livre. On va rentrer d'une certaine manière dans votre univers, dans votre tête, pour essayer de comprendre les concepts qui vous accompagnent de manière plus précise. À la lecture de vos ouvrages et surtout du dernier, on découvre, Caroline Emke, que dans votre tête, on ne trouve pas tant des voix de philosophes, peut-être certains, on va en entendre encore, que des musiciens. Du coup, finalement, vous dites que c'est la musique qui vous a éveillé à votre désir. Cette phrase est très forte, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un autre corps, c'est la musique qui vous a fait prendre conscience de la singularité de votre désir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est ce que je raconte dans le livre, effectivement. La découverte de la musique en tant que langage musical. Il ne s'agit pas simplement d'écouter, mais de pénétrer les structures de la musique, arriver à les comprendre. C'est cela qui m'a montré qu'il n'y a pas une seule norme, qu'il n'y a pas un seul motif, mais que ce qui est excitant et vivant et passionnant dans la musique, c'est la transformation d'un motif. La façon dont un motif est retravaillé, se transforme, interprété différemment. Et lorsque soi-même, dans son désir, on ne correspond pas à la norme, il s'agit de trouver le moyen de se libérer de ça.
Et
c'est très important qu'on vous explique
absolut entscheidend und existentiell positiv sein.
Voilà, que la façon d'interpréter différemment la norme peut être d'une importance vitale.
Puisque vous aimez être concrète et que vous louez dans la philosophie sa capacité à dire les choses, soyons-le, quand vous dites le désir ne correspond pas à la norme, vous faites référence à ce que vous décrivez dans votre livre, des types de désirs qui sont d'ordre homosexuel et qui ne correspondent pas à la majorité.
Yeah. Also das ist in der Tat, also es geht in dem Buch natürlich.
Oui, de fait, dans le livre, il s'agit sans cesse de situations concrètes dans lesquelles on fait la constatation,
dass man nicht dazugehört, dass man nicht
passt. Oui, où on constate concrètement qu'on ne fait pas partie du reste du groupe, qu'on ne correspond pas aux normes ou que les règles ne nous correspondent pas.
Dass es ausgesprochen schwer ist, das eigene homosexuelle
Begehren zu entdecken. Ou pour aller un peu plus loin, qu'il est très difficile de découvrir un désir homosexuel, même pas de le vivre, mais déjà de le comprendre.
Wenn es dafür keine Begriffe oder Bilder oder Vorlagen oder Muster gibt.
Il est très difficile de le comprendre lorsqu'il n'existe pas de concept, d'image et de modèle pour ça.
Et au-delà du désir homosexuel, c'est le cas de toute forme de désir qui est très rarement, qui correspond très rarement à une norme.
Oui, et puis on nous en parle rarement. Tous les livres que j'ai lus à l'école, et même nous avons lu même Thomas Mann sans qu'on nous parle d'homosexualité. Et c'était un non-lieu, un non-concept. Une espèce dont on sait qu'elle existe, mais ça s'arrête là. Il ne s'agit pas question de savoir si on a honte d'être ceci ou cela, mais tout simplement, est-ce qu'on a simplement l'idée qu'on peut désirer de cette façon-là? Et c'est beaucoup plus existentiel. Et beaucoup plus compliqué sur le plan philosophique. Ce n'est pas juste une question politique. Oui, il s'agit de savoir si pour désirer quelque chose, il faut déjà savoir que ça existe, ce qu'on pourrait désirer. Et ça, c'est très difficile pour ce qui est de l'homosexualité, par exemple.
Et vous pensez que le désir peut se transmettre? Peut-on transmettre? On transmet le goût de la philosophie, on enseigne, transmet.
Also nicht in dem Sinne, dass, also das ist lustig, weil das fürchten ja immer die Homophoben.
Oui, ça c'est très drôle parce que c'est précisément ce que craignent les homophobes.
Oder die Rassisten.
Ou les racistes.
Ja? Die denken immer,
ils pensent toujours que s'ils voient une femme voilée,
werden sie plötzlich auch unterdrückt.
Oh, ja? Ja, ils se sentent opprimés.
Oder wenn man in der Schule über Homosexualität spricht.
Si on... Oui, si on parle d'homosexualité à l'école, ça y est, tous les enfants vont devenir homosexuels.
Das funktioniert natürlich nicht, denn dann hätte ich auch
ça marche jamais comme ça. Sinon, moi, je serais devenu hétéro, par exemple.
Also, das ist keine Ansteckung. Das
non, il n'y a pas de contagion.
Das ist so ein biopolitisches Konzept,
ça, c'est un concept biopolitique
que
ça se transmettrait comme par des bacilles.
Aber ich glaube, was ich... Um es etwas ernsthafter zu antworten, aber...
Mais pour être un peu plus sérieuse...
Natürlich lässt sich das Nachdenken darüber, wie Wünsche überhaupt hergestellt werden, sozial, kulturell,
on peut bien sûr réfléchir
religieux,
pour savoir comment les désirs sont sociale, produits sur le plan social, culturel, esthétique.
Darüber lässt sich natürlich nachdenken, aber es bezieht sich dann eben nicht nur.
C'est une réflexion à mener, mais ça ne concerne pas simplement les gens qui ne correspondent pas à la norme, mais aussi ceux qui correspondent à la norme.
Transmettre le désir, c'est aussi donner le goût de s'éveiller à son propre désir, transmettre la possibilité de dire « je » lorsqu'on désire. Et dans votre cas, c'est entre autres ce genre de choses qui vous a éveillé à votre désir. Je vois que les concertos brandebourgeois de Bach vous font autant sourire que la philosophie Caroline Hemke. C'est de là que tout vient pour vous?
Oui, bien sûr. Oui, dès que je l'écoute, et vous l'avez fait à dessein, bien entendu, c'est ce sentiment de bonheur revient, ce sentiment de bonheur de l'enfance revient très fort.
La musique fonctionne souvent comme un Tagebuch.
La musique fonctionne souvent comme un journal. Un journal que l'on n'aurait pas besoin d'écrire.
Il
nous ramène à des situations dans lesquelles on était quand on a entendu cette musique.
Pour
moi, Bach et les concertos brandebourgeois, c'est la première œuvre que nous avons vraiment étudiée à l'école. C'était un petit peu la carotte que le professeur utilisait pour nous attirer vers la musique.
Und insofern funktioniert es, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen.
Et donc ça fonctionne à différents niveaux pour moi.
Eben dieses Glücksmoment, dieses sentimentale.
Déjà ce moment de bonheur, cet aspect sentimental qui nous ramène à l'enfance.
Aber natürlich auch sofort, dass man sich erinnert.
Mais aussi tout de suite le fait de se rappeler comment on a appris ce qu'est le métier de compositeur, le métier de la musique.
Das Handwerk des einen musikalischen Text lesen,
ce qui consiste à déchiffrer un texte musical, par exemple aussi.
Des suchens nach einzelnen Puzzleteilen, wie sie
la recherche des différents éléments musicaux dans la structure d'un morceau.
Und auch dieser analytische Teil.
Et ce travail d'analyse, c'est un grand bonheur.
Et pourtant, vous n'êtes pas devenue, votre métier n'est pas celui de musicienne, mais bien d'écrivaine, d'auteur.
Ja, das ist dumm gelaufen.
Et oui, ça s'est mal terminé en fait.
C'est définitif?
Ja, nee, das funktioniert. Also ich würde immer noch sehr, sehr gerne Kartenabreißerin in der Philharmonie.
Oui, j'aimerais beaucoup être ouvreuse à la Philharmonie, par exemple.
Aber ich habe jetzt gerade, aber das ist ganz neu, mir ist angeboten worden, ob ich im
Mais
Radio.
On vient de me proposer très récemment à la radio de présenter une émission musicale.
Ja, das wäre Kindheitstraum. Das wäre
besonders schön. Un de mes rêves d'enfant, ça serait super.
Nicht, dass ich schon weiß, wie das geht, aber
pas du tout, je sais pas du tout comment ça pourrait se faire, mais j'adorerais ça, ouais.
Félicitations. Dans votre panthéon musical, on trouve aussi ça. Extrêmement difficile de parler de musique, Caroline Emke, de trouver les mots pour décrire ce que fait une musique. Est-ce que vous arrivez à nous dire pourquoi ce morceau que je vous laisse nous présenter vous a tant marqué?
Ja, in der Tat, es ist, glaube ich, wirklich schwer, über Musik zu sprechen.
C'est vrai, c'est très difficile de parler de musique.
Das ist jetzt Shostakovich.
Il s'agit de Shostakovich, en l'occurrence.
Kammermusik.
Musique de chambre.
Streichquartett.
Quatuor à cordes de Shostakovich.
Und ich glaube, bei Shostakovich sind es ganz viele Momente, die es zunächst einmal nur beim Hören.
Chez Shostakovich, il y a beaucoup de moments qui, dès la première écoute, sans aucun prérequis, sans aucun savoir, sans connaître les controverses historiques, mais c'est déjà une musique qui vous prend immédiatement.
Et pour moi, gerade bei Shostakovich, sind es eben auch häufig die Bezüge, die Zitationen zu seiner eigenen Musik.
Chez Shostakovich, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est déjà les citations de sa propre musique ou les références à la musique de Bach.
Und das heißt, es gibt für mich bei Shostakovich.
Et pour moi, chez Shostakovich,
immer so eine besondere Tiefenschärfe.
Il y a toujours une certaine profondeur de chant.
Dass man, wenn man ihn hört,
quand on l'écoute,
so eine Dreidimensionalität,
il y a une sorte d'aspect tridimensionnel.
Auch in die eigene Musikgeschichte mit zurückgeht.
C'est-à-dire qu'il nous ramène à l'histoire de la musique et de sa musique.
Für mich, das beeindruckende,
et ce qui m'impressionne en particulier,
c'est le
fait de pouvoir reconnaître des structures très classiques et très connues et des éléments harmoniques qui d'un coup nous surprennent.
Und es ist eine intellektuelle und eine emotionale Überraschung.
C'est une surprise à la fois musicale et intellectuelle.
Est-ce que vous séparez complètement la musique de la philosophie ou est-ce que la philosophie n'a pas elle aussi sa musique, son rythme, ses structures répétitives? De même que la musique a peut-être sa pensée.
Da muss ich erst mal drüber nachdenken.
Là, il faut que je commence par réfléchir.
Nein, ich würde sagen, es ist ein. Also natürlich kann ich auch mit philosophischen Begriffen oder ästhetischer Theorie an Musik herantreten.
Oui, je peux aussi aborder la musique avec des concepts philosophiques ou des réflexions théoriques.
Mais eine andere Wirkungsweise hat.
Mais la musique a une toute
auch
autre forme
d'action. Eine bestimmte Form direkter vielleicht.
Il y a un aspect très direct dans la musique.
Wenn ich jetzt noch was, darf ich noch was sagen? Darf ich noch was zu Shostakovich sagen?
Je peux dire encore quelque chose sur Shostakovich?
Weil das, ich glaube, das für mich Interessante bei Shostakovich war, dass
ce qui est intéressant chez lui, c'est
die Begegnung mit Shostakovich für mich
que pour moi la rencontre avec Shostakovich,
den ich eben
c'était d'abord
als historische Figur,
le compositeur que j'ai d'abord perçu comme une figure historique.
Entdeckt habe.
Je l'ai découvert en tant que tel quand j'étais au lycée. Et la controverse autour de savoir si est-ce que cette musique était en quelque sorte une musique officielle ou pas, comment un compositeur se comporte face aux exigences politiques de son temps.
Et
c'est à propos de Shostakovich que je me suis posé ces questions pour la première fois. Pour moi, c'était pour Shostakovich une dimension supplémentaire que j'ai perçue. Les controverses politiques autour de la musique elle-même. Oui.
De manière beaucoup moins intellectuelle, mais peut-être beaucoup plus engagée, on trouve aussi dans votre tête comme influence musicale ceci.
Ah oui, c'est de mieux en mieux ici.
Voilà où on passe de Bach à Shostakovich et enfin à Bronski, Caroline Emke. C'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. C'est à cause de vous et tout est cohérent en réalité. Pourquoi Bronski Beat et pourquoi cette chanson qui s'appelle quand même Why? Pourquoi?
Bronski Beat war zu meiner Zeit die erste Band.
À mon époque, c'était le premier groupe
die sich sehr explizit,
qui s'est penché de façon explicite sur l'homosexualité, qui en parlait ouvertement et qui est intervenu de façon politique.
À l'époque,
c'était Age of Consent, c'est-à-dire l'âge du consentement, qui était un débat en Allemagne à l'époque. L'âge de la maturité sexuelle, dont on discutait beaucoup en Allemagne. Pour moi, c'était une découverte. Il y avait beaucoup de musiciens ou d'artistes homosexuels, mais qui ne parlaient jamais de ce sujet. Et je les ai entendus en concert d'ailleurs, Bronski
Beat.
C'est pas vraiment ma musique de chevet en général, mais.
War wild.
Mais c'était vraiment bien, ouais.
Mais c'était plus que du plaisir esthétique, si je vous comprends bien. Il y avait aussi une forme de revendication.
Sicherlich auch ein Ausdruck, also sehr viel auch von dem eigenen Zorn.
Oui, c'était aussi l'expression pour une bonne part de notre propre colère.
Verzagtheit von der Wut, also es war sicherlich auch eine Musik,
une colère qu'on retrouve dans cette musique qui. Qui nous a donné une possibilité d'articuler ces sentiments pour lesquels on n'avait aucun lieu. Mais il faut dire que quand j'ai entendu ça, je ne m'étais pas encore découverte.
On a entendu quelques-unes de vos musiques fétiches qui comptent tant pour vous. Voici maintenant quelques voix de philosophes. Vous nous direz lesquelles ont compté pour vous. Et puis eux-mêmes, d'ailleurs, vont vous poser des questions. Écoutez.
Je voudrais moi aussi poser des questions. Qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Et est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela?
C'est la voix de Gilles Deleuze qui veut lui aussi poser des questions, dit-il. Hein. C'était une conférence à la FEMIS où il s'interroge sur l'acte de création. Il se demande, mais avoir une idée en philosophie, est-ce la même chose qu'avoir une idée au cinéma? Il se dit, qu'est-ce que c'est qu'au fond que la philosophie est la réponse à cette question nous permettra de savoir si nous avons quelque chose à nous dire. Est-ce que vous avez, Caroline Emke, quelque chose à dire, à Deleuze en particulier?
Ja, ich muss erstmal überlegen, ob also was die Frage der Philosophie sozusagen ist.
Il faut d'abord que je réfléchisse à cette question. Qu'est-ce que la philosophie?
Wahrscheinlich ist die Philosophie dasjenige, das nie aufhört, sich die Frage zu stellen, was die Philosophie ist.
Et probablement, la philosophie, c'est ce qui permet d'arrêter de se poser la question, qu'est-ce que la philosophie?
Und ich glaube auch im Kern ist wahrscheinlich der Modus oder das Genre des Philosophen einerseits dieses Staunende, das ist vielleicht die
Et je crois qu'au cœur de tout ça, il y a ce moment de l'étonnement,
qui est
la forme la plus constructive de questionnement et la question du doute. Pour moi, au fond, c'est quand même la question de l'étonnement.
La question de Deleuze en appelle une autre, et votre réponse également. Vous dire, c'est une question d'étonnement, mais surtout faire de la philosophie, c'est ne plus se demander à quoi ça sert. Je vous propose qu'on envisage la philosophie cette fois-ci comme une forme de savoir-faire, vraiment dans la dimension la plus pratique, non plus une définition abstraite, mais une définition matérielle, et qu'on entre dans l'atelier du philosophe. On y entendrait par exemple celui-ci.
La philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir?
C'est la question que pose Vladimir Jankélévitch. À quoi sert la philosophie? C'est pas un ustensile, c'est pas un outil. Vous l'avez bien dit, hein, finalement, vaut mieux ne pas demander à quoi ça sert. Faire de la philosophie, c'est ne pas demander à quoi ça sert. Pourtant, le philosophe a bien des outils, n'est-ce pas, Caroline Emke?
Des Philosophen.
Ja, in der Werkstatt des Philosophen, glaube ich, gibt es zunächst einmal.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'atelier du philosophe?
Ein Unbehagen vielleicht.
D'abord un malaise, peut-être.
Ein Hadern,
quelque chose qui coince, un obstacle.
Irgendwie wie ein Stein im Schuh, wie so ein kleiner Kieselstein im Schuh, der einen nicht richtig
comme un petit caillou dans la chaussure qui permet pas de marcher tout à fait librement.
Und der Kieselstein kann ein Phänomen der Wirklichkeit sein.
Ce petit caillou, ça peut être un phénomène dans la réalité. Ça peut être un phénomène social.
Es kann ein Begriff sein,
ça peut être un concept, ça peut être une pratique,
ça
peut être un comportement. Et je crois que très souvent, ça commence avec une dissonance, vraiment un malaise.
Et puis le Versuch,
Et après, on commence d'abord par essayer de donner un nom à cette chose-là. On n'est pas beaucoup plus avancé, mais.
Manchmal ist es wie Rumpelstilzchen. Wenn es einen Namen hat, kann es nicht mehr gefährlich sein.
Voilà. Mais la première des choses, c'est déjà de nommer les choses. Et c'est comme dans le conte de Grimm, Rumpelstilzchen, le nain tracassant. C'est dès qu'on peut nommer une chose, elle n'est plus dangereuse.
Ça veut dire que dans votre atelier de philosophe, Caroline Emke, le premier outil, ce sont les mots, les noms.
Oui, j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais je ne peux pas vraiment le dire. Mais au début, à la racine de tout, il y a une sorte de murmure. Quelque chose qu'on ne peut pas encore dire, articuler précisément.
Et on
doit trouver une forme pour s'approcher des phénomènes.
Instrument.
Et pour moi, l'écriture, c'est un instrument
qui
m'aide à préciser des questionnements.
Et
je l'espère, à parvenir à cette traduction entre le concret, réciproque entre le concret et l'abstrait. Mais de façon très, très concrète, j'ai besoin d'un mur avec un tableau, des petits papiers que je peux coller. Mais si vous voulez vraiment savoir
comme
les choses
espions,
pratiques...
En fait, comme dans les séries d'espionnage, le mur avec les papiers et les fils qui relient les individus aux autres.
Après, il y a les concepts directeurs, puis des exemples, les différentes lignes que je peux tracer. Et certains sont des thèses, d'autres des références. C'est comme le cinéma, c'est vrai.
Nicht so ordentlich.
Mais c'est moins bien fait quand même.
Et c'est plus difficile de trouver le coupable bien souvent, c'est pas aussi simple, c'est pas une seule personne. Et est-ce que vous travaillez différemment selon que vous écriviez un livre de philosophie ou un ou un texte plus littéraire, ou dans votre activité de journaliste, puisque vous êtes aussi journaliste. Est-ce que le travail est le même ?
Nein, das Arbeiten ist sehr, sehr anders.
Non, non, le travail est très différent.
Wenn es um Reportagen geht,
lorsqu'il s'agit de reportages,
geht es ja darum, andere Menschen zu repräsentieren,
il s'agit de donner l'image d'autres personnes, d'autres expériences.
Natürlich Zeugenschaft abzuleisten.
Oui, de donner témoignage.
Und da geht es unglaublich stark darum, ob es eigentlich stimmt.
Et là, le plus important, c'est est-ce que c'est vrai ce que j'écris?
Ist das richtig?
Est-ce que c'est juste?
Ist das angemessen?
Est-ce que c'est à la mesure de ce que je veux décrire?
Und dann auch nochmal, wie lassen sich Erfahrungen aus extremen Situationen,
et au-delà de ça, comment peut-on traiter les situations extrêmes, violences extrêmes, par exemple, les situations dans la bande de Gaza ou en Irak, ou en Haïti. Comment peut-on les traduire de façon à ce qu'elles soient compréhensibles pour des gens qui n'ont jamais eu de telles expériences extrêmes?
Und trotzdem sie bereithalten für oder das Zulassen von der Vorstellung von etwas, das Schmerzen bereiten wird, das Elend.
Est-ce qu'on peut laisser ouvert un espace où on peut s'imaginer que ce sont des choses très douloureuses?
Und das heißt, bei Reportagen ist die Last der Verantwortung.
Et pour les reportages, le poids de la responsabilité est énorme.
Et pas pour le philosophe.
Nein, also Philosophin will ich auch, dass es stimmt.
Ja, oui, en philosophie, bien sûr, je veux aussi que ce soit juste et exact.
Aber es ist nicht, dass mir jemand anderes etwas anvertraut hat.
Mais c'est pas la même chose, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'a confié quelque chose.
Ich mitnehmen muss.
Un quelque chose que je dois emporter.
Sicher sozusagen in einen anderen Kontext, in eine andere Sprache
bringen. Et apporter intact à bon port dans un autre pays.
Und natürlich bei Menschen, deren die permanent die Erfahrung machen, dass sie negiert werden.
Et quand on a affaire à des gens qui font sans arrêt l'expérience d'être niés, chassés de chez eux, de torturer, violés,
die ununterbrochen erfahren, dass sie nichts zählen,
qui font sans arrêt l'expérience du fait qu'ils ne comptent pas,
da muss ich hinkriegen.
Il faut que je parvienne à ce qu'il compte, justement. Quand j'écris un essai, s'il n'est pas bon, je me suis juste planté, quoi.
Ouais,
les gens vont penser que je suis nul, mais ça s'arrête là.
Non,
si j'écris un mauvais livre, je perds de la crédibilité, de la reconnaissance. Mais si j'écris un mauvais reportage,
was im Kongo oder was im Irak oder was in Kolumbien passiert.
Ja, les gens ne croiront pas ce dont je dis que ça se passe au Congo, en Irak ou en Colombie.
Das heißt, die Last des Scheiterns.
C'est que là, le poids de l'échec est très différent.
Es fällt mir viel leichter, sozusagen einen schlechten Essay zu schreiben, eine schlechte Reportage.
Je peux vivre beaucoup plus facilement avec le fait d'avoir écrit un mauvais essai qu'un mauvais reportage.
Mais quand on vous écoute, on se dit que puisque vous êtes aussi reporter de guerre, en fait, la philosophie paraît bien moins urgente, moins vitale, moins nécessaire que le travail que vous faites sur le terrain. Et pourtant, vous continuez.
Ja. Donc,
en quoi est-elle aussi nécessaire et vitale?
Ja, nein. Also, ich glaube,
oui et non.
Ich natürlich jeden Moment, den ich auf Reisen bin, im Moment bin ich gar nicht auf Reisen, aber jeden Moment sonst.
Bien évidemment, dès que je suis en voyage.
Bin ich vor Ort als jemand, der philosophisch trainiert ist?
Je suis dans ces pays en tant que quelqu'un qui a étudié la philosophie.
Jede Situation, jeden Moment überdenke ich mit den Instrumenten der Philosophie.
J'appréhende chaque moment, chaque situation avec les moyens de la philosophie. J'ai étudié l'éthique du discours chez Habermas et chez Abendanabim. Je suis, pour ainsi dire, entraîné au changement de perspective.
Sozusagen, die unterstellen auch immer, dass Leute rational ihre Perspektiven darstellen können. Und
on suppose toujours que les gens peuvent décrire rationnellement leurs perspectives.
Aber der Großteil der Menschen, mit denen man spricht,
la plupart des gens avec qui on parle, dans les zones de guerre, n'est plus en mesure de faire ça. n'est plus en mesure de raconter une histoire qui fonctionne de façon linéaire. Une histoire qui paraît plausible.
Permanent die Begegnung mit traumatisierten
Menschen. On rencontre sans cesse des gens traumatisés.
Fordert die ganze Zeit mein theoretisches Instrumentarium heraus.
Et cela me sollicite sans cesse mes instruments théoriques, si vous voulez.
Und erweitert es aber eben auch.
Mais ça l'élargit aussi. Ça améliore la théorie.
Hoffe ich.
J'espère en tout cas.
Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui?
Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Trois questions que pose le philosophe Michel Foucault et que le philosophe en général, ou la philosophe que vous êtes, Caroline Emke, peut être amenée à se poser. C'est le philosophe, en fait, non plus dans la tête du philosophe, non plus dans l'atelier, mais dans la cité. Et vous venez de le dire très bien, comme quand vous avez aussi l'occasion d'exercer un autre métier qui est celui de journaliste. Quel rôle reste-t-il pour le philosophe? Peut-il s'engager? A-t-il un rôle à jouer politiquement? Où se situe-t-il dans la cité, dans le monde, le philosophe aujourd'hui?
Ich glaube, ich kenne niemanden, der Philosophie ernsthaft betreibt, der sich diese Frage nicht stellt.
Je crois que je ne connais personne qui s'occupe sérieusement de philosophie et qui ne se soit pas posé cette question.
Und ich glaube, es gibt auch niemand, der nicht mit dieser Rolle hadert oder mit der Frage.
Et je crois qu'une personne qui n'ait pas de problème avec ce rôle-là.
Ich glaube, für mich als in meiner Biographie,
pour moi, dans ma biographie,
war am Anfang nur die Frage, ob ich in der Universität bleiben will.
Au début, il y avait la question de savoir si je voulais rester
à l'université, oder ob ich rausgehen will.
Ou est-ce que je voulais en sortir.
Und ich glaube, ich habe mich in der Universität, hat mir immer die Welt gefehlt.
Dans l'université, le monde me manquait.
Und in der Welt hat mir immer die Theorie.
Et inversement.
Und glücklicherweise Bücher zu schreiben ist eine Form.
Bizarrement, le fait d'écrire des livres, c'est une façon de remettre les deux ensemble.
Aber ich glaube, dass wir im Moment in dieser speziellen historischen Zeit.
Je crois que en ce moment historique précis,
eine ganz neue Frage auftaucht.
Il y a une nouvelle question qui se pose pour les philosophes.
Und das eine ist, wir erleben eine Zeit,
und zwar
in mehrfachen Hinsichten. Das eine ist,
sous plusieurs angles.
Wir erleben eine Zeit, in der
Nous vivons une époque où l'antimodernisme est très fort. Il y a un mouvement contre les Lumières, anti-scientifique, que ce soit aux USA, que ce soit avec Trump, que ce soit avec Poutine en Russie. Il y a des attaques massives contre les systèmes de savoir, contre les discours scientifiques.
Auf die Errungenschaft der Aufklärung.
Sur les conquêtes des Lumières.
Wir haben eine Renaissance von dogmatischen.
Nous assistons à la Renaissance de la pensée dogmatique.
Heißt, ich glaube, das Schwierige für Wissenschaftler.
Et je crois que le plus difficile pour les scientifiques.
Den eigenen Anspruch in einer Weise verteidigen.
C'est qu'ils doivent défendre leurs propres méthodes et leur propre travail, ce qu'ils n'avaient pas été obligés de faire depuis très très longtemps.
Das ist das eine.
Ça, c'est un point.
Das andere, glaube ich, ist, dass über die Digitalisierung.
L'autre point, c'est qu'avec la
Strukturwandel der Öffentlichkeit.
À l'ère numérique, il y a un changement de structure de ce qu'est l'opinion publique.
Bei dem wir im Moment überhaupt gar nicht wissen, wo eigentlich Wissen distribuiert wird.
Et à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment où le savoir est distribué.
Und ich glaube, mindestens meine Hoffnungen, dass es soziale Medien emanzipatorische Subjektivitäten stärken.
Mon espoir, c'est que les réseaux sociaux, les médias sociaux puissent renforcer la subjectivité. Oui.
Das ist enttäuscht.
Mais ça a été déçu.
Ja, und ich glaube, dass öffentlich-rechtliches Radio, öffentlich-rechtliches Fernsehen.
Je crois que les radios publiques, les télévisions publiques.
Eine enorme demokratische Aufgabe haben.
Ont une mission démocratique de première importance.
Wirklich Wissen und Information zu verbreiten.
Ja, c'est de diffuser l'information et le savoir.
Und das aber, also ich jetzt als Autorin glaube auch, dass wir tatsächlich wieder Räume.
Je crois que, en tant qu'auteur, je crois que nous devons vraiment occuper des terrains, les théâtres, les écoles, les espaces publics.
Moment, Ich bin jetzt die letzten zwei Jahre nach dem Erscheinen von Contre la haine in Deutschland.
Depuis deux ans après la parution de Contre la haine en Allemagne, j'ai parlé en public beaucoup plus souvent.
Mit der Einschätzung dieser speziellen historischen
Zeit. C'est lié à mon appréciation de ce moment historique particulier. Je crois qu'il faut vraiment occuper des espaces publics et plus que des universités en tout cas.
Mais pensez-vous qu'un philosophe peut être médiatique?
Oui.
Ils sont beaucoup critiqués, les philosophes dits médiatiques. Comme si les médias allaient galvauder le discours, comme si ça signifiait une absence de travail ou de profondeur. C'est pas évident.
Oui,
ça dépend comment on fait les choses, mais c'est. On est toujours critiqué. Si on reste vissé à son bureau, qu'on sort jamais, on a le reproche de la tour d'ivoire. Si on sort, on vous demande si vous travaillez parfois. Et je suis très sceptique par rapport à certaines formes de talk-show. Très sceptique par rapport à certains débordements égotiques de personnalités. Mais je ne parle pas de ça. Mais je crois que je reviens à ce qu'on disait au début, il s'agit de traduire. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de reconquérir des espaces où la raison peut régner. Et des espaces où l'on peut débattre de certaines questions sans tomber dans le dogmatisme. Il faut donner plus de poids et d'espace à ce genre qu'est la pensée, finalement. Pensée qui est attaquée d'un côté par des trolls de droite.
Und andererseits von dummbatzigen Talkshows.
Et d'autre part par des talkshows débiles.
On n'en fait pas partie ici.
Non,
vous me rassurez.
C'est pas une talkshow, un talkshow ici.
C'est un peu mon rêve, mais bon, c'est une autre question.
Non, je parlais de ces émissions politiques standards à la télévision.
Caroline Emke, que voudriez-vous qu'on retienne de vous dans, dans votre postérité?
Ach du lieber Schreck.
Oh là là, quelle question.
Ich würde sagen, dass ich eine gute Freundin war und Musik.
J'espère qu'on dirait que j'ai été une bonne amie, que j'ai aimé la musique.
Aber das ist nicht mal das, was Sarah Kane gesagt, dass sie wünschte, dass man von ihr erinnerte, und sie hat gesagt, that I was a good friend and that I loved music.
C'est Sarah Kane qui avait dit ça.
Un tout dernier questionnaire pour vous. Avant de se quitter en musique, évidemment, quelques questions auxquelles vous pouvez prendre le temps de répondre, mais répondre très rapidement aussi, une sorte de questionnaire chinois ou questionnaire de Proust pour apprendre à connaître ultimement votre caractère. Quel livre de philosophie n'avez-vous jamais fini?
Welches
Philosophie? Kapital.
Le Kapital.
Vous savez que c'est enregistré, hein, tout ce que vous dites.
Ok.
Suite à une réforme de l'enseignement, vous vous retrouvez face à des maternelles. Par quel livre de philo est-ce que vous commencez?
Sicherlich Platon, der Staat.
Platon, la République.
À 4 ans.
À 4 ans.
Maternelle et Kindergarten.
C'est natürlich une frage, wie man's dann vermittelt, aber ehrlich gesagt.
C'est la question de savoir comment on peut transmettre ça, mais.
Auch nicht so schlecht.
Mais c'est pas si mal.
Vous pouvez dîner? Avec trois philosophes.
Vous êtes philosophe, ça peut être musique, ça. Muss ich Philosophen nehmen?
C'est vraiment des philosophes, c'est obligé, ça peut pas être des musiciens.
Okay. Vous mettre un musicien avec eux.
Svetan Todorov. Simon Weil. Et Foucault.
L'ironie socratique, l'austérité kantienne, l'angoisse de Schopenhauer ou la paranoïa de Rousseau. Quel est le meilleur défaut philosophique que vous choisissez?
L'ironie de Socrates.
Jardinage, sexualité ou marche à pied, quelle activité s'apparente le plus à la philosophie?
Marche à pied.
Imaginez que le philosophe est une espèce en voie de disparition. Quelles mesures employez-vous pour sa conservation?
total diktatorisch anordnen, dass es in der Schule unterrichtet wird.
Oui, ordonner de façon totalement dictatoriale que ce soit enseigné à l'école.
Après toutes ces années d'études et de pratiques philosophiques, journalistiques et d'écrivain Karl Nemke, quelles leçons de sagesse pouvez-vous nous délivrer?
J'y réfléchis, ça fait 20 ans que j'y pense et j'ai pas fini.
Je crois qu'aucun philosophe n'a jamais révélé une leçon de sagesse ici même. C'est peut-être ça être philosophe, savoir que la sagesse n'est jamais acquise. Merci beaucoup Karl Nemke.
Merci à vous.
On se quitte en musique, une musique qui je crois compte pour vous, Keith Jarrett.
Yeah.
De vous, Caroline M., que les auditeurs français peuvent lire « Contre la haine, plaidoyer pour l'impur », traduit en français l'an dernier, ainsi que « Notre désir », qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle, bonjour tout le monde.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre d'Albrecht Koschorke, qui s'intitule « Manipuler et stigmatiser, démystifier Mein Kampf », paru aux éditions du CNRS. Avant de parler du livre, deux mots sur l'auteur. Albrecht Koschorke est professeur de littérature à l'université de Constance. Il est une éminente figure de ce que l'on appelle le tournant iconique, qui postule qu'il y a un surplus iconique, c'est-à-dire un surplus de l'image par rapport au langage verbal. Pourtant, cette fois-ci, c'est bien le langage qui est au cœur de l'ouvrage de Koschorke. Dans « Manipuler et stigmatiser, démystifier Mein Kampf », l'auteur s'attaque au livre écrit par Adolf Hitler entre 1924 et 1925, alors qu'il est en détention à la prison de Landsberg à la suite du putsch de la Brasserie. Dans un style empreint de haine et de ressentiment, Hitler y expose sa conception du national-socialisme, idéologie ultranationaliste, revancharde, belliqueuse, mais aussi ouvertement raciste et antisémite. À sa publication, en 1926, l'ouvrage se vend peu. Il faut attendre 1933 et l'accession d'Hitler au pouvoir pour que les ventes de Mein Kampf explosent. 1,5 million d'exemplaires sont écoulés la même année. À partir de 1936, Il devient même le cadeau de mariage offert par l'État allemand au jeune couple marié. On considère qu'en 1945, un Allemand sur cinq a lu le livre. Mais alors, pourquoi ce livre a-t-il rencontré un tel succès? L'auteur le rappelle, les idées qu'Hitler y défend ne sont pas sorties toutes armées de sa tête. Elles avaient déjà cours dans les milieux racistes et même, quoique de manière moins flagrante, dans la société wilhelminienne. Pourtant, la diffusion massive de l'ouvrage marque un tournant dans les consciences allemandes. Mein Kampf devient le livre-programme du Troisième Reich. De manière fort intéressante, Koschorke souligne d'ailleurs que de nombreux systèmes totalitaires se sont érigés autour d'un seul livre, qui revêt rapidement une fonction quasi-religieuse, dans la lignée des livres sacrés des grandes religions révélées. Ces livres, selon l'auteur, ont tous un point commun. Ils sont confus, peu cohérents, théoriquement faibles, ce qui n'entache pourtant pas leur autorité. C'est bien plutôt l'inverse qu'on observe, écrit Koschorke, et qui semble même comme inscrit dans le marbre. Plus le style d'un livre est ayant un ordre répressif est obscur et équivoque, plus il est facile de se l'approprier par des usages sélectifs. Et plus grande est par conséquent la liberté d'action des groupes d'intérêt qui se réunissent sous sa bannière. Mein Kampf ne déroge pas à la règle. La provocation, la surenchère, l'outrance, ils sont beaucoup plus décisifs que l'aspect doctrinaire, de telle sorte que pour comprendre son succès, il ne faut pas s'intéresser au fond, mais à la forme. C'est ce à quoi s'emploie Koschorke en proposant une analyse stylistique précise et documentée. L'auteur ne s'attache pas aux insuffisances argumentatives ou aux mensonges historiques, qui ont déjà fait l'objet de nombreuses études. Il montre, pas à pas, comment le style seul sert deux objectifs principaux. Immuniser les lecteurs contre les entreprises de falsification venant de l'extérieur et renforcer la cohésion du groupe à l'intérieur en faisant des lecteurs les détenteurs d'une vérité cachée que les autres refusent de voir. Cette plongée au cœur du livre infernal permet surtout à Koschorke de dresser des constats généraux sur le processus de fanatisation. C'est à cela qu'il s'attelle dans la dernière partie, qui est à la fois la plus passionnante, la plus terrifiante et la plus actuelle. En refermant le livre, on comprend mieux la démarche scientifique qui a présidé à la réédition de Mein Kampf en Allemagne en 2016, après que l'ouvrage est tombé dans le domaine public. C'est cette réédition qui a poussé de nombreux chercheurs allemands à se pencher sur l'ouvrage d'Hitler et qui a convaincu Koschorke de s'y intéresser de plus près. L'ambition est simple, étudier pour mieux comprendre et ne pas reproduire. En 2015, Fayard, l'éditeur historique de la traduction française, annonçait son intention de republier l'ouvrage accompagné d'un appareil critique. L'édition, plusieurs fois reportée, devrait voir le jour en 2020. Entre-temps, le scandale provoqué par l'annonce de la réédition des pamphlets de Céline chez Gallimard et le rétro-pédalage des éditeurs montrent que la France n'est pas prête encore à affronter ses démons. Et pourtant, il y a urgence. En attendant, lisez, manipulez et stigmatisez « Démystifiez Mein Kampf » d'Albrecht Koschorke, paru aux éditions du CNRS.
Merci Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Merci particulièrement à Sharon Houry, ainsi qu'Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda et Marie Simon, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan qui est à la prise de son aujourd'hui, et un merci tout particulier également à Bernard Mongiante qui a assuré la traduction. Pour écouter cette émission avec Caroline Emke, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, ainsi que les émissions sur l'Iliade de Homère qui ont été diffusées cette semaine. On se retrouve lundi pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie sur le populaire, de la pop musique à la réputation, de la popularité comme condition nécessaire pour bien gouverner à ces écrivains qui n'aiment pas le peuple, Philippe Muret, Charles Baudelaire, entre autres. La semaine prochaine, nous serons tous populaires. Rendez-vous d'ici là sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve lundi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.